Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est au plein d'Aou. C'est une cité, un quartier nord, à Marseille. Il est 6h. On doit aller travailler. je vends pas le shit. C'est pas que je vends pas, mais peut-être j'organise. Je donne un peu des conseils aux vendeurs et voilà. À 18h, je vérifie. Je vérifie s'il manque rien, si tout se passe bien. Et on repart à minuit.
C'est quoi ce que t'écoutes, Christophe? C'est dans Banana Cash, ça?
Ben non, même pas. C'est un podcast d'Arte Radio, là. Je suis trop deg. Il est trop bien, leur sujet. C'est encore un coup de leur boss, ça, Sylvain Gir.
En même temps, qu'est-ce que tu veux faire, Christophe? Arte Radio, c'est un peu le boss final du game du podcast. Ils en font depuis 2002, je crois. T'étais en 3e et ça s'appelait même pas podcast.
Bah en tout cas, écoute, finalement, ça tombe bien que je tombe sur ce podcast, hein, parce que Sylvain Gir, on le voit ce week-end, t'as pas oublié qu'on part à Brest.
Comment pourrais-je oublier qu'on part à Brest, Christophe? Longueur d'onde, c'est le meilleur festival. Un week-end à écouter de la radio, de la création sonore, du podcast, à prendre le téléphérique, tout en mangeant du crabe, des huîtres et en buvant du chouchen, bah c'est noté dans mon agenda depuis un an.
Et sans parler des soirées au Vauban, bah tu sais quoi, Camille? J'ai une idée. Si on enregistrait un Banana Cush en public au festival Longueur d'onde et si on invitait le patron d'Arte Radio? Je suis sûr que Sylvain Gir a deux ou trois petits trucs à nous raconter sur le sujet.
Ça, j'en doute pas une seule seconde. Bah, c'est parfait, on lance ça. Je vois déjà la headline: Banana Cush épisode 34, spécial Longueur d'onde avec Sylvain Gir. C'est parti.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel?
Des bananes.
Vous en voulez?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau!
Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Brest, bonjour Longueur d'onde et bonjour Sylvain Gir.
Bonjour Camille, bonjour Christophe.
Salut.
Comment ça va?
Ça va pas mal, c'est un peu émouvant d'être là et ce matin au petit-déj au Vauban, il y a un collègue qui m'a dit: tu sais que quand même t'es un rédacteur en chef du service public un peu exposé, qu'est-ce que tu vas foutre à parler de ta consommation de cannabis? Et bon ben trop tard.
C'est foutu, mais en même temps c'est le but de cette émission, c'est de briser les tabous en libérant la parole.
Tout à fait. Donc on est au festival de radio Longueur d'onde à Brest, ça je l'ai dit, on est à la Carène pour être très précis. Ici tout le monde te connaît, Sylvain, un peu comme le loup blanc, parce que le patron d'Arte Radio à Longueur d'onde, c'est un peu comme Brad Pitt sur la croisette, il faut le dire. Mais comme les auditeurs de Banana Cush te connaissent peut-être moins, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots rapidement?
Oui, j'ai 58 ans, j'étais le plus mauvais journaliste de ma génération et puis le service public m'a sauvé en me permettant de créer Arte Radio en 2002 au sein d'Arte France. Donc c'est une radio web qui est, on va dire, la pionnière du podcast. Donc ça fait 20 ans que je produis des fictions, des documentaires et des émissions régulières qui sont distribuées sous forme de podcast.
Et qui nous ont tous inspirés, nous qui faisons du podcast au quotidien. Alors on va commencer, je te laisse poser la question rituelle.
La question,
Christophe,
traditionnelle avec laquelle on commence toutes les émissions de Banana Cush. Quel fumeur de cannabis es-tu, Sylvain Gir?
Un fumeur solitaire. J'ai constaté assez vite, adolescent, que mon souci avec le cannabis, c'est quand t'es dans un groupe d'amis, la conversation s'éteint au rythme où tourne le pétard. Il y a quand même, ça n'a pas que des aspects positifs, le cannabis, et notamment la paranoïa qui s'installe, bloque les conversations. Et ça, c'est quelque chose qui m'a gêné, et donc je consomme quasi quotidiennement, mais seul. Disons que c'est une consommation très légère, quasi quotidienne, pas addictive, parce que je peux m'en passer, ce qui en plus permet de récupérer les rêves. C'est quand même agréable de se remettre à se souvenir de ses rêves. Et voilà, quoi, mais ça a été... un peu up and down depuis l'âge de 15-16 ans.
Tu consommes dans quel genre de moment, pour quel type d'activité?
Pour regarder des vidéos, pour regarder des séries et des films. Vraiment, je n'arrive plus à détacher l'un de l'autre. Donc seul, je consomme peu, c'est-à-dire vraiment tu vois, mes petits bouts d'herbe qu'en général on me donne me durent des mois parce que je consomme assez peu.
C'est très lié à ce truc de chill le soir.
Absolument.
Ouais. Un rituel, c'est un rituel.
Tu sais, je pense toujours à ces trucs des années 50, tu vois, dans Mad Men, le père qui travaille et qui rentre et qui boit un double martini pour se détendre.
You don't have to listen, but I have to say it. We're all brothers in Christ. That's his gift to us. We're talking about a fellowship far more powerful than drink.
You keep it down. I'm trying to drink.
C'est un peu cet effet-là. Pour
couper, marquer la fin de la journée.
Exactement. Enfiler un jogging et se rouler un petit stick.
Qu'est-ce que ça change de regarder un film, une série avec un pétard plutôt que de le regarder sobre ?
Tu sais, je suis vraiment heureux et fier d'être invité dans votre podcast. D'abord parce que je trouve que vous faites une œuvre de salubrité publique. Il faut en parler, il faut éduquer, il faut aborder ces questions. Ça me paraît fondamental. Et en même temps, ça oblige à questionner sa consommation. Ce que je me rends compte que j'ai très peu fait. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis l'adolescence, qui joue un grand rôle dans ma vie. Et je me suis rarement interrogé sur le pourquoi. Et je pense qu'il y a une forme... quand même d'abrutissement, je recherche, c'est-à-dire que j'ai besoin que cette machine mentale s'arrête un instant de tourner, et donc je combine deux addictions qui sont la consommation d'images animées et le pétard de la même façon. J'ai l'impression que ça me rend beaucoup plus réceptif aux films. Je regarde les films et je regarde les plans, les dialogues, est-ce que c'est bien fait, est-ce que ça marche, tiens, est-ce que ce plan est joli, tu vois. Il me semble que ça me met dans un état de réceptivité que d'autres gens vont associer à la musique. Tu vois, ce qu'a représenté l'attrait du cannabis à l'adolescence, c'est que tu as l'impression d'entendre la musique autrement. Et maintenant, ça s'est beaucoup plus tourné, vu mon grand âge. J'écoute beaucoup moins de musique, hélas, et je regarde plus de films.
Alors par contre, ça peut aussi poser des petits problèmes de mémoire. Quand on regarde une série...
Est-ce que tu te souviens de l'épisode que tu as regardé la veille?
C'est pas ça.
Oh, je peux regarder la trilogie Jason Bourne tous les ans. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Ouais.
Tu disais que ça t'accompagne depuis longtemps. Quand est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu te souviens de la première fois ?
Il y a quelques mois, je me suis effondré en larmes chez ma psychanalyste en disant « j'ai même pas choisi de me droguer ». C'est-à-dire que ça a été assez coercitif. Dans mon entourage familial, il y a quelqu'un, j'avais 14 ans, qui m'a roulé un pétard, qui m'a mis un disque de Magma, c'est pour situer un peu l'époque, hein, c'est fin des années 70, et j'ai été obligé de fumer ce pétard et de ressentir quelque chose en écoutant la musique. Comme souvent avec le premier pétard, je ressentais absolument rien, j'étais terrorisé, mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai pas choisi.
Donc ça veut dire que ce premier pétard en écoutant Magma, c'est pas forcément un très bon souvenir?
Ah non, c'est un souvenir épouvantable, je te dis, quand je m'en suis souvenu, je me suis mis à pleurer, mais surtout je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment choisi ça?
Et quelle place avait le cannabis un peu dans ce milieu-là à cette époque-là? C'est une substance qui était quand même moins répandue et moins banalisée qu'aujourd'hui, si, déjà?
Bah, j'habitais dans un quartier populaire de Lyon, donc en fait mes parents partaient en week-end à la campagne en me laissant l'appartement, c'était une grosse erreur, et du coup on descendait faire les courses pour le week-end et au passage on achetait une barrette dans la rue, quoi. C'était assez pratique.
C'est quelque chose qui était ancré dans la contre-culture ?
Oui, complètement. Ouais. Non, mais c'est ça. Il y avait cette idée tout à fait étrange que c'était quelque chose de révolutionnaire ou de contre-culturel ou d'exprimer une différence en fumant des pétards. J'en suis moins sûr maintenant, mais il y avait ça.
C'était lié aussi à un contexte de groupe, oui. De mecs dans l'adolescence.
C'est ce qui m'a gêné d'ailleurs. Mes meilleurs amis à l'adolescence ne consommaient pas de hashish. En fait, on n'aimait rien ni personne. On était extrêmement cyniques, un peu pré-punk ou post-punk. Et du coup, quand on se retrouvait dans un milieu de fumeurs de joint, on les trouvait assez ridicules. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait quand même une affirmation. T'étais fumeur de joint, t'étais pas comme les autres. Et ils avaient des conversations quand même vraiment peu intéressantes. Et tout ce rituel, cette manière d'en parler, de se sentir meilleur, de se sentir à part parce qu'on consomme, on trouvait ça un peu ridicule. Donc ça m'a protégé un peu des drogues douces. L'adolescence, c'est quand même un moment étrange. un écrivain anglais, Martin Amis, que j'aime bien. Et il dit, par exemple, la sexualité adolescente, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qu'on te fait faire. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça à l'adolescence. Au 15 ans, c'était encore dans ce truc du groupe. Tu vois, c'était de la frontière avec le lycée où tu vas enfin t'autonomiser et décider de ce que tu aimes et de la personne que tu es et quels sont tes choix sexuels, affectifs, esthétiques. Et en même temps, à 14-15 ans, c'est là où je pense, excusez-moi, je vais passer mon temps à parler à alerter la jeunesse sur les dangers du cannabis, mais je crois qu'il y a quelque chose qui peut être assez dangereux, notamment je le vois dans mon entourage amical, c'est pour les garçons. Je constate que, bon, j'ai des amis qui ont des enfants, les pauvres, et je vois vraiment que chez les garçons, il y a un rapport au cannabis qui est quand même curieux, parce que ça devient structurant. C'est-à-dire qu'ils voient leur premier pétard à 16 ans et ils n'arrêtent plus, en tout cas jusqu'à 25.
Alors, puisqu'on est à longueur d'onde, il y a une autre question qu'on voulait te poser. Tu nous as dit que tu aimais bien fumer un petit pétard en regardant des vidéos. Est-ce que ça t'arrive de fumer un petit pétard en écoutant de la radio, du podcast, du son?
Tu sais, j'ai toujours, je n'écoute pratiquement jamais de podcast. J'ai un peu honte de le dire, mais
on va couper.
Il y a trop de trucs à faire.
Voilà le premier tabou de cette interview. Non, mais,
je lis beaucoup. Honnêtement, je lis beaucoup. La lecture tient une place essentielle dans ma vie. J'ai besoin de lire plusieurs heures par jour. Plus, je consomme un max de séries, de films, etc. Il me reste peu de temps pour les podcasts. C'est pour moi écouter du podcast, c'est du boulot. Je travaille toute la semaine. Je produis des podcasts. Le week-end, non. Je suis fasciné par les gens qui arrivent à consommer et travailler.
Je fume le matin et jusqu'en fin de journée où je fume beaucoup moins.
Vous avez reçu Oxmo, il fait un podcast chez nous, les histoires de quartier. Oxmo, il fume dès le matin en permanence des trucs énormes. Tu tires deux taffes dessus, ta vie est finie. Mais je ne sais pas comment il fait. Il fonctionne très bien. Il y a des gens qui fonctionnent bien. Après, on n'est vraiment pas égaux. Je crois qu'une fois au début d'Arte Radio, je ne voudrais pas dénoncer mon collègue, mais avec Christophe Rau, on a fumé un pet ensemble pour mixer. C'était une catastrophe. Je fais rien de bien. Puis écrire, j'aime bien écrire. Ça m'est littéralement impossible de faire quoi que ce soit de constructif. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas. Je te dis encore une fois, ça me gênerait que ce plaisir-là, pour moi, est justement de l'ordre du farniente. Tu vois, si je m'autorise un pétard, c'est que vraiment, je suis tranquille, j'ai du temps devant moi, mais pas s'il y a de la conversation, pas s'il y a du boulot, non.
Ça, c'est pour rassurer la hiérarchie d'Arte. Hein.
Non, mais j'assume.
Parfois, tu te dis que t'aimerais arrêter ?
J'aurais aimé avoir arrêté. J'aurais aimé arrêter plus tôt. C'est très étrange. Je te dis, c'est vraiment un truc qui fait tellement partie de ma vie que je l'ai rarement questionné. Puis comme ça n'a pas des proportions folles, c'est-à-dire que, tu vois, si je pars en vacances, si je fais un truc, si j'en ai plus, je vais pas tourner en rond, ni être malade ou malheureux. Tu vois, même au contraire, je vais dire, tiens, c'est bien, ça fait un break. Et puis à un moment, ça repasse. Je sais pas.
Donc t'es pas du tout dans une forme, malgré ta consommation quasi quotidienne, tu considères que t'es pas du tout dans une forme d'addiction?
Non, c'est étrange, hein. Je m'illusionne complètement, mais
ça s'appelle se mentir à soi-même, effectivement.
Tout à fait. Mais c'est utile.
Ce qui est une définition de l'addiction.
Absolument. Ok, au début c'était sympa d'être invité, j'ai apprécié. Je sais pas combien je vous dois, on va en parler à la fin. Mais...
Banana Cush sur Nick, la radio.
Alors, on a un petit peu fouillé le catalogue d'Arte Radio en préparant cette interview pour voir s'il était question justement de cannabis dans certains de vos podcasts. Et on s'est rendu compte que vous l'aviez fait un petit peu avant nous, finalement, nous qui pensions être les précurseurs de ce sujet, les pionniers. On s'est rendu compte que vous avez commencé même très tôt à parler de cannabis.
Ouais, ouais.
Et le podcast le plus ancien qu'on a retrouvé, il date de 2003.
Ouais.
Il s'appelle Shit Ado. C'est un podcast de Joseph Beauregard qui s'est rendu à la sortie d'un lycée et qui a tendu son micro, du coup, à des lycéens qui sortaient du lycée pour leur demander s'ils consommaient, comment, pourquoi. Et leurs réponses sont assez fascinantes. On va écouter un petit extrait.
Tout le monde fume au récré. On est tous donc devant parce que l'année dernière, on pouvait fumer des cigarettes dans la cour. Là, on peut plus. Donc tout le monde se met sur le trottoir. Et chaque récré, il y a au moins 3 joints qui tournent.
À mon avis, c'est pas travailler qui les passionne le plus, hein, ces gens-là.
C'est pas vrai, j'ai de bonnes notes en français quand je suis déchirée.
Arrête ton délire.
Je fume le midi parfois.
Le midi parfois, ouais. T'emmenais Cécile tous les jours chez toi pour fumer.
C'est pas vrai.
Tous les jours.
C'est pas vrai. Au lycée. Que le vendredi.
Donc on répétera jamais assez dans Banana Cush, et je le redis, que consommer du cannabis à l'adolescence, ça peut être très dangereux. Toi, je sais, Sylvain, que tu as vraiment à cœur la jeunesse, que c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment est-ce que tu entends ces témoignages de gamins de 15-16 ans ?
Ben moi, j'ai dans mon entourage des gamins qui ont une addiction au cannabis, c'est-à-dire qu'ils me disent « ça me fait plus de bien, ça me rend parano, ça me plaît pas, et je suis incapable de refuser ». Et c'est vraiment, c'est dur ça. Je pense que le cannabis peut être une drogue dure. C'est-à-dire que c'est comme tout dans la vie, c'est pas le produit, c'est le rapport que tu entretiens avec le produit. Et le cannabis peut vraiment être une drogue dure dans le sens où elle te provoque une... Il y a des gens qui ont énormément de mal à arrêter.
En 2003, pour le coup, quand vous avez fait ça, 2003, c'est vraiment précurseur de parler librement de cannabis comme ça à cette époque. Comment vous en êtes arrivé à ce sujet, à vous interroger sur la consommation de shit?
Bah, d'abord, l'équipe était très jeune. Moi, j'étais déjà vieux, mais on avait une équipe assez jeune de gens qui sortaient d'école, qui avaient 22, 23, 24 ans. Donc voilà, on était libres. Arte, comme depuis à peu près 20 ans, nous fout une paire royale. Donc on faisait ce qu'on voulait. Et on voit bien que le succès du podcast maintenant, c'est de mettre sur la table, d'aborder des sujets qui ne sont pas abordés et qui n'étaient surtout pas abordés par les médias mainstream. De la même manière qu'on parlait de thèmes féministes avant que, tu vois, que ça soit le féminisme washing auquel on assiste souvent, quand tu donnes un peu de liberté aux gens pour aborder des sujets, c'est normal qu'ils parlent de ça.
Et c'est vrai que ça, c'est des paroles finalement qui, particulièrement quand vous avez commencé à le faire il y a une vingtaine d'années, qui étaient absolument inédites. Il y a beaucoup de gens qui vivent finalement leur consommation soit tout seul, soit avec leur groupe, et qui ça peut faire du bien d'entendre,
oui,
à travers des podcasts par exemple, que d'autres vivent la même chose qu'eux.
Mais c'est exactement comme la sexualité, si tu veux. L'échec total, c'est quand on a essayé de faire les ABC de l'égalité à l'école et que, tu vois, il y a des parents qui se sont mobilisés contre en disant oui, c'est la théorie du gender, machin, alors que ça n'avait absolument rien à voir. Et du coup, on peut parler de rien. On ne s'en sortira pas si on n'apprend pas aux gens à gérer leur conso. Donc il faut leur dire le plaisir que ça procure, ce qu'on ne peut pas faire à cause de la loi de 70, les dangers... L'isolement, voilà. On le fait avec l'alcool, on le fait avec la conduite, on le fait avec toutes les choses qui peuvent être risquées. On dit aux enfants, fais attention le soir, ne monte pas dans la voiture d'un inconnu qui t'offre des bonbons. Mais c'est impossible de parler à ces ados de drogue. Or, c'est essentiel. Ça me paraît essentiel, de, là aussi, de dire, oui, il y a des dangers.
C'est un tabou qui est moral, fondamentalement.
Oui.
La loi qui régit aujourd'hui la politique pénale des drogues, date de
1960. C'est une catastrophe.
31 décembre 1970, on est en plein post-68, ouais. Et c'est vraiment une réaction de panique morale post-68arde.
Ça fait 50 ans et j'ai peur de mourir avant elle. C'est-à-dire comme le Sénat ou la 5e République, c'est-à-dire tout ce qui dysfonctionne dans ce pays se perpétue. On n'arrive pas à s'en sortir. On vit sous le régime d'une loi absolument épouvantable. Tout le monde est d'accord. Il y a quand même des spécialistes. Il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Il n'y a pas que les consommateurs. Tu as des sociologues, des philosophes, des artistes, etc. Des policiers, tu vois. Dans la police, ça commence à râler sur la question de la pénalisation du cannabis. C'est une catastrophe. Ça fait dépenser une fortune. Ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. On consomme plus que les autres pays européens. Et on a toujours cette foutue loi de 70 qui fait que, par exemple, notre conversation peut être illégale puisqu'on va présenter l'usage de stupéfiants sous un jour favorable. Et cette fameuse formule qui nous empêche tout simplement d'en parler. Or, ce sont des lois qui sont totalement puritaines, qui viennent d'une espèce d'angoisse de tout ce qui va être lié au corps, à la fête, à l'ivresse, à la détente, à la défonce, pourquoi pas. Alors que c'est quelque chose d'anthropologique. Tu parles aux préhistoriens, ils sont tous d'accord pour te dire que ce qu'on appelle les hommes des cavernes, qui vivaient pas dans les cavernes, consommaient des psychotropes, des champignons, etc. Que, par exemple, les peintures rupestres éclairés avec les lampes à huile primitives de la préhistoire, se mettent à bouger. Donc en gros, comme moi, ils allaient regarder des vidéos le soir un peu défoncées.
Ouais, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même juste pour boire un coup, passez à ma grotte.
Banana Cush.
Hachiche, cannabis, marijuana.
Ce serait donc cela, le secret de la banane.
Alors on va se replonger un petit peu dans ce catalogue d'Arte Radio. Cette fois-ci, c'est un podcast qui date de 2011 et qui m'a beaucoup fait rire puisque vous avez envoyé votre stagiaire appeler le numéro vert d'écoute pour les consommateurs de cannabis. je vois que les souvenirs sont un peu flous. Il fumait trop, votre stagiaire, c'est pour ça que
moi,
vous l'avez envoyé.
Non, c'est son patron qui fumait beaucoup trop.
Alors, on va écouter un extrait de ce que ça donne. C'est un podcast réalisé par Samuel Hirsch.
Écoute, Cannabis, bonjour.
Bonjour, je suis un enfant de 15 ans. J'aimerais m'informer sur les effets néfastes et bons du cannabis, parce que j'avais des amis qui me disaient que d'être sous l'effet d'un joint, ça peut être d'après eux favorable à une rédaction ou à une disserte.
Alors y a des gens qui estiment que ça augmente leur créativité. Faites peut-être le test un jour.
D'accord.
Mais je n'en suis pas certaine.
Et pourquoi actuellement en France, en fait, c'est illégal ? C'est à cause des effets néfastes ?
Pourquoi c'est illégal ? Parce que... Pourquoi c'est illégal ?
C'est quand même assez génial, cette dame qui n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est illégal.
J'avais complètement oublié ce podcast, mais que tu me dis un stagiaire de 15 ans, ça devait être le stagiaire de 3e. Quand même, c'est excessif. J'espère que la direction d'Arte n'écoute pas Banana Couch. Ne nous vous envoyez
pas écouté
pas
ce podcast non plus.
N'envoyez pas vos enfants à Arte Radio. Mais ça devait être à la voix, c'était un stagiaire de 3e.
Hein. Ouais.
Bah écoute.
Mais alors, à la fin du podcast, justement, ce qui est marrant, c'est qu'il raccroche en disant « Ah, elle était sympa cette dame, plus sympa que la précédente, qui avait dû un peu plus lui remonter les bretelles. Ouais. » Mais justement, c'est marrant d'entendre cette dame qui n'est pas du tout dans la diabolisation du produit et qui, au contraire, a à cœur de répondre très sérieusement à ces questions sans s'arc-bouter sur les postures morales qu'on évoquait un petit peu plus tôt.
Bah, elle a raison, sinon le truc est inefficace, sinon ça ne vaut pas le coup de faire un numéro vert.
On va écouter un dernier extrait.
Ouais.
Donc cette fois-ci, c'est en 2013 et vous avez sorti le podcast qu'on a longtemps voulu faire d'ailleurs avec Christophe, mais on n'a jamais réussi à très bien le faire. Donc tant mieux, on est content d'avoir découvert à cette occasion qu'Arte Radio l'avait déjà fait et mieux que nous. C'est un documentaire de Pascal Pascariello qui s'appelle Au Charbon. Ça se passe dans les quartiers nord de Marseille avec Samir, 22 ans, qui gère les guetteurs d'un point de deal en bas d'une tour.
Moi, j'ai 22.
22 ans. 22 ans. Ça fait combien de temps que vous faites ça ?
Ça fait 6 mois, 7 mois. Avant, je travaillais avant. J'étais payé 1002, 1003. Après, j'en avais marre. Au bout de 3 ans, pas de CDI, rien. J'étais encore en CDD. J'en avais marre, je voulais faire des choses dans mon quartier. J'étais en bac commerce.
En bac commerce ?
Ouais. Pour devenir commercial, mais ça me sert ce que j'ai appris à l'école. Les maths, le français, savoir parler. Ça aide toujours l'école. Hein. S'il n'y a pas l'école, je ne serais pas ici de toute façon. Ils mettent pas n'importe qui aussi qui travaille. Faut mettre des gens qui sont cultivés aussi. Faut pas mettre des gens qui connaissent rien. Non mais moi j'ai un objectif. Mon but c'est pas de terminer dans ça moi. Moi c'est de histoire de rebondir. Parce que c'est pas des vies ça.
Comment est-ce c'est que fort, tu réagis
Je sais que Pascal Pascariello, c'est vraiment une journaliste extraordinaire. Là. Ça fait un moment qu'elle n'a plus travaillé avec nous, mais elle nous a ramené les braqueurs. C'est quelqu'un, voilà, elle va dans les quartiers nord, elle peut interviewer un charbonneur. Elle le fait dans une voiture, à mon avis, vu le son, puis pour qu'il ne soit pas vu par ses collègues. Et c'est du beau travail. C'est vraiment une journaliste qui est unique.
Ce que je trouve formidable dans ce travail, c'est que le trafic, qui est souvent le seul angle avec lequel on aborde le cannabis en France, et le trafic, on l'aborde toujours d'un point de vue policier. Et là, on s'intéresse au point de vue en fait, de ces jeunes, qu'on voit toujours juste avec l'étiquette dealer, mais en fait s'intéresser à leurs paroles et à leur vie.
Oui, et tu as tout à fait raison, mais il y a une explication à ça, c'est que moi j'ai toujours dit, ce qui intéresse Arte Radio, c'est le comment. Et là, c'est pareil, on a fait un livreur de cocaïne. Et en fait, c'est fascinant, la question, c'est pas assez bien, c'est mal et tout. Comment ça fonctionne ? Et quand tu creuses là-dessus, ce qui est hyper intéressant, c'est que très souvent, chez les dealers dans ces trafics, ils sont assez macronistes, ils sont assez start-up. Le livreur de coke, il dit, ah, mais tu vois, le patron, c'est dur pour lui, il faut bien travailler, hein, faut être réglo avec les trucs et tout. C'est l'employé du mois. Et en même temps, il est pressuré, il risque des années de tôle, il a la pression d'en haut de la cabine qui lui envoie les ordres, tu vois, par texto, par WhatsApp et tout, et la pression des clients. Et quand tu creuses la question du comment, qu'est-ce que ça veut dire ? Combien ça ramène ? Cette idée très intéressante que le trafic ne rapporte pas tant que ça. Ça rapporte au chef de réseau et à ses lieutenants. Les gamins, on dit toujours, ça c'est les erreurs totales, c'est de dire, ah c'est normal que les gamins vendent du shit parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. C'est pas vrai. C'est pas ça qu'ils cherchent. c'est une reconnaissance de l'honneur, de la masculinité, une marginalité. Mais en vrai, par rapport au risque que tu prends, ça ne te rapporte pas tant d'argent que ça. C'est pas vrai, on ne va pas pour les petits minots en bas. Du coup, ça pose question. Bien sûr qu'ils vont filer un billet à maman, ça c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas non plus dire ils sont obligés pour faire vivre la famille, ce n'est pas vrai. Il y a autre chose qui est en jeu. Et ce qui nous guide dans la vie, ce qui nous fait exister, c'est des ensembles de... Maintenant, on parle beaucoup de récits, de storytelling, mais ça aussi, c'est un récit. Le récit du mauvais garçon, le récit de la marginalité, le récit de la flamme, c'est un récit.
Si je reviens au témoignage du coup de Samir qu'on vient d'entendre dans cet extrait de podcast de Pascal Pascariello, ce qu'on entend aussi en creux, c'est les capacités qu'il faut avoir. Enfin, c'est une vraie entreprise finalement de participer à un trafic de deal. Et c'est assez frappant quand on parle de deal de cannabis de voir comment s'organisent ces réseaux-là comme de petites entreprises avec leur carte de fidélité, avec leur manière de gérer la relation au client, de le fidéliser, de le faire revenir.
Ah, mais ça c'est quelque chose que, bah, par exemple, aux États-Unis, on en parle beaucoup. Mon philosophe contemporain préféré, c'est Ice-T. But it's a drug deal. I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Out on the dance floor, on my world tour. I'm selling dope in each and every record store. I'm the kingpin when the wax spins. Crack a smack or take you to a show end. You don't need it, just throw that stuff away. You wanna get high, let the record play. Et Ice-T, il a fait un livre fantastique qui s'appelle The Ice Opinion, où il te dit comment le skills de la rue peut te servir dans le business. Et comment il utilise ce qu'il a appris. Et justement, tu dis l'échange, la parole, la facilité à rencontrer des gens d'autres milieux, à évoluer dans différents trucs, à ne pas se faire avoir. Il n'y a pas de meilleure punchline que celle de Joey Starr à qui on posait la question sur est-ce qu'il était pour la légalisation. Et il a répondu, c'est la mort du petit commerce. Après... on est obligé de reconnaître qu'on alimente un système criminel.
Merci beaucoup.
Merci Sylvain, merci au public d'être venu si nombreux, ça nous fait très plaisir.
Avant de se quitter, quand même, on va te garder encore un petit instant, Sylvain, parce qu'on a une petite tradition dans ce podcast.
Ouais.
Ça s'appelle la banane de fin. Tu veux bien participer ?
Yes.
Ok. Bah alors, on se retrouve tout de suite après le générique. C'était un épisode spécial de Banana Kush, enregistré en public à Brest, à la Carène, à l'occasion du festival Longueur d'onde. Merci beaucoup au public de Longueur d'onde. Merci à nos auditeurs. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode générique. Ici Dika, chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige, sticky, trip et joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dithylamide et la
Et ben voilà, c'est le moment de la banane de fin. Alors Sylvain, on t'explique le principe. On va te poser ce très difficile dilemme qu'on pose à chacun de nos invités. On va te demander de choisir entre deux objets, deux bananes,
de couleurs différentes.
Voici il y a une banane jaune.
Magnifique, courbée, assez dure, visiblement fraîche et à la fois encore...
Je l'ai choisie avec soin et elle est bio. Et voici la banane verte.
Ah, alors tu vois, c'est un autre genre de banane, c'est moins courbé, moins arrondi, ça fait aussi saliver, ça donne un peu envie.
Alors avec laquelle tu veux repartir ?
Comme je te dis, là je suis au travail à longueur d'onde, je suis pas là pour rigoler, donc je vais m'en coller une derrière l'oreille. Et
tu repars avec les deux.
C'est très gentil, vous êtes vraiment, c'est rare d'avoir des goodies comme ça en fin de podcast.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.